BPM, le journal d'information locale.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal quotidien sur BPM. Dans l'actualité de ce lundi 26 avril, nous irons tout d'abord sur la 13 avec ce fait divers et ses grands excès de vitesse de plus de 230 km/h. Puis nous vous parlerons de la rentrée des classes avec ce préavis de grève dans les écoles primaires tout au long de cette semaine. Ensuite, toujours sur la rentrée des classes, le conseil scientifique préconise les autotests en milieu scolaire. Et enfin, nous terminerons ce journal à Vernon, la Fondation Édouard Isambard lève régulièrement des fonds pour apporter du matériel médical dans les centres hospitaliers de Vernon et d'Évreux. Pour l'occasion, nous sommes allés à la rencontre du président de cette fondation, le docteur Christian Richard. Et nous commençons donc ce journal avec ce fait divers sur l'A13 et ses grands excès de vitesse de plus de 230 km/h. Les gendarmes ont eu du travail samedi 17 et dimanche 18 avril sur les routes de l'Eure en ce deuxième week-end des vacances scolaires. Les militaires ont procédé à des contrôles de vitesse. Au total, 144 infractions liées à la vitesse ont été relevées, dont 5 pour grand excès de vitesse, 7 infractions pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et 10 conduites sous stupéfiants. Dans ce contexte, trois automobilistes se sont fait remarquer, notamment les gendarmes de l'Eure. Ainsi, une Audi RS6 a été contrôlée sur la RD14 bis à Boismont à 238 km/h sur un axe limité à 80 km/h. Une BMW 240i a été elle contrôlée sur la 13 à AI pour 241 km/h au lieu des 130 km/h autorisés. Enfin, une Renault Mégane Break a été contrôlée sur la RD834 à Épreuve ville en Lieuvin à 211 km/h. Depuis plusieurs semaines, la recrudescence des grands excès de vitesse est constatée dans le département de l'Eure. La gendarmerie ne ralentira pas ses actions aux abords des routes et continuera à répondre présent en luttant contre ces comportements dangereux pour sauver des vies. Parlons de la rentrée des classes avec ce préavis de grève dans les écoles primaires. Tout au long de cette semaine, les professeurs des écoles restent très inquiets en ce jour de rentrée scolaire, reprochant notamment que le protocole sanitaire n'était pas assez évolué pour faire face à cette crise. Hier encore, ils se plaignaient d'être dans le flou concernant cette rentrée. Depuis plus d'un an, ils reprochent au ministère de l'Éducation de ne pas les prévenir en avance sur le fonctionnement des nouvelles mesures, devant toujours vivre dans le stress, doutant d'une organisation plus sécuritaire et mieux rodée qu'avant les vacances scolaires. La Fédération syndicale unitaire 78 a déposé un préavis de grève du lundi 26 au vendredi 30 avril. Le syndicat qui a été suivi par de nombreux autres dans les différents départements, moins pour appeler à la grève que pour ses collègues qui se sentent en danger, puissent se protéger. Le droit de retrait est plus compliqué à appliquer, d'autant que ce syndicat estime que la fermeture des établissements scolaires a bien fait baisser les chiffres de contamination de 0 à 9 ans, avec des taux d'incidence ayant beaucoup baissé depuis 4 semaines. Concernant la fermeture des classes en fonction des cas contacts, la règle ne change pas. Lorsqu'un cas est avéré parmi les élèves, toute la classe doit fermer, mais l'enseignant, lui, n'est pas considéré comme cas contact. De la même manière, lorsque le professeur a un doute sur sa santé, la précaution n'est pas toujours de mise. De manière générale, les enseignants des classes élémentaires et du second degré réclament des protocoles plus stricts avec la notion d'obligation, afin qu'il ne soit pas sujet à interprétation dans les différents établissements. Restons toujours sur ce sujet des rentrées des classes. Le conseil scientifique préconise les autotests en milieu scolaire. Le jeudi dernier, le gouvernement annonçait que les élèves de primaire et maternelle allaient bel et bien reprendre aujourd'hui. Ils ont notamment annoncé que le conseil scientifique préconisait les autotests en milieu scolaire. Le conseil estime qu'il apparaît qu'un rythme de 1 à 2 tests par semaine, avec une participation d'au moins 75% des élèves, permettent d'avoir un impact très significatif sur le risque de diffusion scolaire du virus. En revanche, il ne se prononce pas sur l'emploi des autotests en maternelle et en primaire, alors que la Haute Autorité de Santé ne les recommande pour l'heure qu'à partir de 15 ans. Pour ces élèves plus jeunes, soit l'ATAG est possible et devra se déployer avec l'aide des parents, si possible à domicile avant à l'arrivée à leur école, soit en alternative, il sera maintenu les tests PCR sur prélèvement salivaire, avec dans ce dernier cas l'écueil du délai pour obtenir le résultat. En même temps, le conseil recommande le développement d'une plateforme numérique sécurisée enregistrant les résultats des tests ou tout autre mode de communication précisant la réalisation du test et son résultat. Et nous terminons donc ce journal à Vernon. La Fondation Édouard Isambard lève régulièrement des fonds pour apporter du matériel médical dans les centres hospitaliers de Vernon et d'Évreux. Pour l'occasion, nous sommes allés à la rencontre du président de cette fondation, le docteur Christian Richard. Il commence par nous présenter sa fondation.
Alors la Fondation Édouard Isambard, c'est une fondation qui est une fondation abritée. C'est-à-dire qu'en fait, elle est abritée, elle est dépendante de la Fondation Charles-Nicolle. La Fondation Charles-Nicolle, c'est une fondation qui est créée depuis 2012 au Centre Hospitalier Régional de Rouen et qui fait suite à une association Charles-Nicolle qui existait depuis de nombreuses années. Le but de cette fondation, c'était de aider à l'investissement et notamment ce qu'on appelle l'investissement innovant, on en dira un mot après, dans les hôpitaux de la région, à l'époque Haute-Normandie, c'est-à-dire Le Havre, CHU et Hôpital Évreux-Vernon. Et puis, au moment de l'excroissance de la Normandie, on a inclus dans cette fondation Charles-Nicolle le CHU de Caen, l'hôpital de Saint-Lô, l'hôpital d'Alençon. Et c'est devenu quelque chose d'important, ce qui fait que le professeur Mallet a demandé à ce que chaque département et chaque hôpital de référence crée sa fondation, donc fondation abritée. Et c'est dans ces conditions-là que, en septembre 2019, on a créé la fondation Édouard Isambard, qui est donc la fondation abritée de la fondation Charles-Nicolle, qui a pour objectif l'investissement innovant dans les hôpitaux Évreux-Vernon, éventuellement financer des formations, éventuellement participer à des actions de prévention.
Il nous présente maintenant qui est Édouard Isambard.
C'était un médecin de la région de Passy-sur-Eure, qui était un médecin généraliste, mais qui était aussi un homme politique, puisqu'il a dû être député de Passy et maire de Passy-sur-Eure, et qui s'était pas mal impliqué dans des actions de santé publique. Quand on a cherché un nom pour la Fondation Isambard, initialement, on avait l'idée d'essayer de trouver le nom d'une femme du département impliquée dans la santé, et on n'a pas réussi à trouver. On a finalement trouvé Édouard Isambard, qui a en plus l'avantage d'être connu aussi bien à Évreux qu'à Vernon, puisque dans les deux villes, il y a des avenues ou des boulevards Isambard, donc ça, c'est un nom connu. Donc voilà, qui est le docteur Isambard ?
Christian Richard nous détaille maintenant ce que la Fondation peut apporter au centre hospitalier de Vernon et d'Évreux.
Il y a deux types de financement. Alors, on est toujours donc affilié à la Fondation Charles-Nicolle et par le biais de la Fondation Charles-Nicolle, on a un financement tous les ans du Conseil régional de Normandie qui apporte un financement à hauteur de 37 500 euros pour les hôpitaux non universitaires et 70 000 euros pour les hôpitaux universitaires, c'est-à-dire le CHU de Caen et le CHU de Rouen. Cette somme de 37 500 euros doit servir à cofinancer un équipement innovant pour ce qui nous concerne Évreux-Vernon. La règle, c'est que c'est donc un cofinancement, c'est-à-dire que l'hôpital s'engage à cofinancer au minimum la même somme que celle qui est donnée par la région. Donc, il faut qu'on investisse dans un appareil d'au moins 75 000 euros. Et puis, à côté de ça, la Fondation Édouard Isambard va essayer de collecter des fonds par des actions. L'année dernière, par exemple, en association avec le Lyons, on a monté une représentation avec l'orchestre de l'hôpital qui est intervenu et puis une troupe de théâtre qui est intervenue aussi. Puis on essaye de s'associer à des manifestations. Alors cette année Covid est compliquée parce que y a beaucoup de choses qui sont annulées ou qui n'ont pas lieu du fait des restrictions sanitaires. Alors, on travaille beaucoup en lien avec les clubs-services, c'est-à-dire le Rotary, les Kiwani, le Lyons. Il y a quelques associations qui nous ont donné un peu d'argent. Il y a des entreprises qui ont donné aussi un peu d'argent. Mais c'est difficile, on a du mal à se faire connaître. Et en fait, on s'aperçoit que les différents donateurs, ça peut être aussi des donateurs privés, aiment bien participer au financement d'un appareil, c'est-à-dire pas donner de l'argent à fond perdu et pas dire je vous donne 1000 euros ou 2000 euros, mais plutôt dire je vais participer à l'achat de tel type d'appareil.
Et pour conclure, il nous explique comment donner à la Fondation.
Alors pour nous aider, c'est assez simple, pour l'instant, les dons ne peuvent se faire que par chèque, mais il suffit d'envoyer un chèque au nom de la Fondation Édouard Isambard et de l'adresser au nom de la Fondation Isambard docteur Christian Richard, centre hospitalier Heursen, rue du professeur Léon Schwarzenberg, à Évreux 27015, Évreux Sedex.
C'est la fin de ce journal. Passez une excellente journée à nous écouter sur BPM.